Ce matin, on va lire trois passages, un gros et deux petits. Donc, on va terminer la lettre de Paul aux Philippiens. Donc, on est dans le chapitre 4, le dernier. On va lire les versets 10 jusqu'au bout. Et ensuite, on va lire un passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, très court. Et on va lire un proverbe de un verset dans Proverbe 12. Voilà. Petit programme un peu à l'ancienne, un peu d'Ancien Testament, un peu d'Évangile et un peu d'Épître pour un repas équilibré. Philippiens 4, verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, car vous, les Philippiens, vous avez enfin manifesté de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez déjà, certes, mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout, en toutes circonstances. Que je sois rassasié ou affamé, que je sois dans l'abondance, dans le besoin. Je peux faire face à tout grâce à Christ qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez bien vous-même, Philippiens, quand j'ai quitté la Macédoine, à l'époque où la bonne nouvelle commençait à être annoncée, vous avez été la seule église à m'aider. Vous seul avez participé à mes gains, à mes dépenses, et déjà, quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé plus d'une fois ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je cherche à recevoir des dons, mais je désire que vous en tiriez un bénéfice. J'ai donc bien reçu tout ce que vous m'avez envoyé. C'est plus que suffisant. Maintenant qu'Épaphrodite m'a apporté de vos dons, je dispose de tout le nécessaire. Ces dons sont comme une offrande agréable, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse dans l'union à Jésus-Christ. À Dieu notre Père soit la gloire pour toujours. Amen. Saluez au nom de Jésus-Christ chacun des membres de votre Église. Les frères et les sœurs qui sont avec moi vous adressent leurs salutations. Tous les croyants d'ici, spécialement ceux qui sont au service de l'Empereur, vous adressent leurs salutations. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Fin de l'Épître aux Philippiens. Et puis dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 19 à 21. Évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et le dernier, Proverbe 12, 22. Une phrase. Le Seigneur a en horreur les lèvres trompeuses, mais il approuve ceux qui pratiquent la vérité. Le Seigneur a en horreur les lèvres trompeuses, mais il approuve ceux qui pratiquent la vérité. Voilà, jusqu'ici la parole de Dieu. Qui parmi nous connaît son âme? Qui parmi nous sait tout ce qui se trouve au fond de son cœur? Qui parmi nous arrive à démêler les vraies motivations, d'autres motivations peut-être plus superficielles ou plus prétextes? Vous savez peut-être pas, mais l'être humain explore ce qu'il y a au-dessus bien plus facilement que ce qu'il y a au-dessous. D'accord ? Nous sommes allés dans l'espace, nous avons fait le tour de la Lune, des allers-retours là-bas. On sait s'envoler, voler à des milliers de kilomètres de la surface de la Terre. Mais en profondeur, c'est une autre histoire. Un certain Victor Vescovo a réussi à atteindre presque le fond de la fosse des Mariannes en plongeant à 10 928 mètres de profondeur dans un sous-marin. Il fut très déçu de trouver à près de 11 000 mètres de profondeur des sacs plastiques de bonbons d'ailleurs. Et mais malgré ce record, l'exploration des fonds océaniques reste à 95% inconnue. Alors que les océans, c'est quand même 70% de la planète. Les Russes ont réussi à creuser un puits de forage d'une profondeur de plus de 12 kilomètres, le puits de Kola. Mais à cette profondeur, la chaleur du sol est telle que les outils fondent. Elles montent à plus de 180 degrés. Tout cela pour vous dire quoi ? C'est plus facile d'explorer à l'extérieur que d'explorer à l'intérieur. Et peut-être que les forages ou les plongées en profondeur dans notre être à nous aussi nous paraissent plus périlleuses que d'aller découvrir ce qu'il y a en dehors de nous. Qui connaît le fond de son cœur et qui a le courage parfois d'aller sonder ce qu'il y a dans son âme ? Parfois même on n'arrive pas à le comprendre quand bien même nous le voudrions. La Bible pourtant nous parle d'une chose très simple pour aller chercher, ou en tout cas pour voir et tester ce qu'il y a au fond de notre cœur. On dit souvent qu'il faut distinguer le fond de la forme des choses. L'intention de l'acte. Pourtant, l'auteur, poète et philosophe Victor Hugo disait « La forme, c'est le fond qui remontait à la surface. » Autrement dit, ce que l'on fait et comment on fait les choses en dit long sur ce qu'il y a tout au fond de nous-mêmes. Nos actes, nos comportements parlent plus authentiquement de nous que nos mots et nos paroles. C'est pour ça que j'ai relevé ce proverbe que je confie à votre réflexion. Le Seigneur déteste les menteurs, les langues trompeuses, lèvres trompeuses, mais il approuve ceux qui pratiquent la vérité, ceux dont les actes sont véridiques. Et vous voyez, c'est intéressant de voir qu'il oppose les paroles aux actes. On peut dire beaucoup de choses, mais ce qu'on fait au final, proverbe très puissant, très confrontant aussi. Ne nous faudrait-il pas plus d'une vie entière pour apprendre à accorder pleinement nos actes à nos paroles ? Ou peut-être plutôt l'inverse, nos paroles à nos actes. Comment cela nous amène-t-il à Paul et aux Philippiens ? À la fin de la lettre, Paul écrit donc à ses chrétiens de Philippe et il revient sur leur générosité. Paul est en prison à Rome et les chrétiens qu'il a bien connus pour leur avoir apporté l'évangile en tout premier lieu lui envoie un des leurs, dénommé Paphrodite, qui apporte à Paul, de la part de ses amis, de l'aide sans doute financière, peut-être même matérielle, et puis à travers cet homme, la présence d'un ami. On pourrait s'attendre à ce que Paul exprime beaucoup de reconnaissance, beaucoup de joie, et leur explique tout ce que ça lui a permis de faire et de vivre et d'acheter peut-être. À notre époque, sans doute que Paul aurait pris plein de selfies avec Épaphrodite en train de manger un plat de, je sais pas, ou alors avec une tunique toute neuve, la mine réjouie. Mais Paul n'en fait pas tout ça, en fait. Presque en lisant l'épître, j'ai eu l'impression qu'il était un petit peu même prétentieux, en disant « Non, mais en fait, ça va, je n'avais pas vraiment besoin. » Vous savez, moi, je sais vivre avec beaucoup, avec rien du tout. Plus, moins, j'avance avec la force du Seigneur. Tout le monde s'est collecté, tout le monde a mis de côté de l'argent, ou on s'est organisé pour envoyer quelqu'un là-bas, enfin, c'est pas rien. Non, mais vous savez, moi, beaucoup ou pas beaucoup, ça change rien, j'ai pas besoin. Dans une version, il y a marqué aussi, j'ai appris à avoir faim. Vous imaginez ? J'ai appris à avoir faim. Est-ce qu'on peut apprendre à avoir faim ? Vivre avec la faim. Et voilà, on a cette façon un peu de voir qu'il se détache un peu de prendre du recul par rapport à ça. Bien sûr, il souligne que ce n'est pas la première fois que les Philippiens font ça. J'ai l'impression que ce qu'il veut souligner, c'est la générosité des Philippiens à son égard et non pas ses besoins à lui. Mais on peut avoir cette impression que le discours de Paul est contradictoire. « J'en ai pas besoin, mais je suis vraiment ravi que vous l'ayez fait. Vous savez, moi, je sais vivre sans rien du tout. Mais c'est bon que vous ayez pris part à mes tribulations. Enfin, » étrange. Mais je crois que Paul, en s'effaçant presque d'être celui qui reçoit le don, veut laisser cette offrande monter jusqu'à Dieu. C'est ce qu'il dit dans les versets 17 et 18. « C'est pas que je cherche à recevoir des dons, mais je désire que vous en tiriez un bénéfice. Bon, j'ai donc tout reçu, ce que vous m'avez envoyé, et c'est plus que suffisant. Maintenant qu'Épaphrodite m'a apporté vos dons, je dispose de tout le nécessaire. Et ces dons sont comme une offrande agréable, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. » Paul a envie que les Philippiens en tirent un bénéfice. Notre traduction pourrait dire « ils désirent qu'ils reçoivent un fruit abondant, qu'un fruit abondant soit porté à leur compte. » Et Paul parlera de la générosité des Macédoniens. Vous pouvez le lire dans la lettre aux Romains, vous pouvez le lire aussi dans la lettre aux Corinthiens. C'est les Macédoniens qui ont eu l'idée de faire une grande collecte d'argent pour soutenir les pauvres qui étaient à Jérusalem et que Paul va leur apporter à un moment. Bref, quel fruit ? Quel fruit Paul veut donner aux Philippiens ? Eh bien, c'est peut-être cette mise en évidence de ce qu'il y a au fond de leur cœur. Si Paul les avait pressés de lui apporter du soutien, s'il leur avait écrit une lettre déchirante, révélant toute l'étendue de sa misère, décrivant les conditions terribles de son incarcération, et qu'en réponse à cela, les Philippiens aient envoyé du secours, ils n'auraient pas pu louer leur offrande comme un acte d'amour fraternel, preuve d'un souci constant, comme il peut le faire maintenant. Paul se réjouit de la spontanéité de l'acte d'amour, car cela révèle le fond de leur cœur. L'acte vrai révèle le fond du cœur. Il n'a pas fallu à Paul de les motiver pour qu'ils donnent. L'occasion de son incarcération les a tout de suite mis en mouvement. Et c'est ce fruit, cette gloire que Paul veut leur rendre. Non pas la rendre réellement en leur rendant l'argent, non, il n'y en a pas le pouvoir. Mais c'est comme s'il leur disait, ne regardez pas à moi à qui vous avez fait du bien, mais voilà, considérez-vous vous-même comme vous vous êtes empressé de le faire à la première occasion. Regardez et voyez. Et réjouissez-vous, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ainsi, nous revenons à notre premier sujet. Qu'y a-t-il au fond de mon cœur ? Que révèlent mes actes ? Est-ce que, comme les Philippiens, mon amour se révèle à travers mes actes ? Ce dont j'ai le souci apparaît-il à travers mes actes ? En vrai, oui, forcément. Mais peut-être que l'image que je me fais de moi n'est pas celle qui est reflétée à travers mes actes. Nos lèvres peuvent dire beaucoup de choses, un peu trop de choses parfois, mais nos actes sont plus justes pour dresser notre portrait que nos paroles. Et c'est à travers eux que je peux examiner ou considérer où en est mon cœur. À quoi est-ce qu'il est attaché en ce moment ? Et puis, puisqu'il est sujet d'argent, oui, osons le dire, la générosité, la libéralité avec l'argent est un signe fort de notre rapport à Dieu, à la foi et à l'Église. Tous nous sommes en lutte intérieure entre un moi idéal, idéalisé, puis un moi vrai. Aucun de nous n'est satisfait de ce qu'il voudrait être et faire, ce qu'il est et fait vraiment. Paul écrivait aux Romains en disant « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Alors ce n'est pas absolu, grâce à Dieu. Il nous arrive le plus souvent, j'espère, d'être en accord dans nos désirs, nos paroles et nos actes. Mais le seul humain qui a vécu intégralement, aligné, c'est Jésus. Alors, courage à nous. Courage pour marcher dans la lumière du Christ, à sa suite, derrière lui. Et cette lumière ne manquera pas de révéler ces décalages entre nos paroles et nos actes. Et ce ne sont pas des constats faciles à faire. Sont douloureux parfois. Et courage à nous aussi, en osant mettre à l'épreuve nos paroles dans nos actes. Peut-être nous tester en faisant ce que l'on dit. Et joie et consolation pour nous tous, parce que, quoi qu'il en soit, ce ne seront pas vos actes qui vous rendront justes, qui doivent vous rendre juste. C'est notre confiance placée en Jésus-Christ. Confiance placée à juste titre, parce que lui, il fait ce qu'il a dit. Toujours. Il a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, pour perdre les âmes humaines, mais pour les sauver. Et vous savez quoi? Il va faire ce qu'il a dit. Il est fiable. Toutes celles et ceux qui remettront leur sort entre ses mains à lui, verront qu'il est fiable et qu'il sauve. Alors, je ne peux pas vous promettre que demain, après ce message, après cette prédication, votre vie va changer et vos actes seront alignés avec vos paroles, mais je peux vous dire ceci. Si nous apprenons à nous considérer par nos actions, à travers nos actions, plutôt qu'à travers nos dires, nos paroles et nos prétentions, si nous persévérons dans la foi, dans la lumière, et en étant dans la lumière du Christ, dans sa grâce, je vous le promets, de sa part, il changera vos cœurs. Lui changera vos cœurs. Continuellement, pas à pas, sans relâche. Et vous recevrez votre fruit de la part des autres. Comme Paul l'offre aux Philippiens, vous recevrez peu à peu la louange de celles et ceux que vous bénirez par votre vie vraie. Louange pour la gloire de Dieu et pour votre joie. Et vous saurez avec foi alors et confiance où se trouve votre vrai trésor. Juste là où se trouve votre cœur. En Jésus. Amen.